Chapitre 20. Une scène navrante. Pickman se retint à un meuble pour ne pas tomber. Il voulut parler, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Ce fut sa femme qui, la première, parvint à articuler quelques paroles. « Colombo, mon petit Colombo, voyons, vous voulez plaisanter, vous savez bien que nous sommes d'honnêtes gens. »« Richard Stone, répétai-je, au nom du roi, je vous arrête. » Pickman se ressaisit. « D'abord, pourquoi m'appelez-vous Richard Stone? Mon nom est Pickman. » « Richard Stone, répliquai-je, et j'appuyais sur les syllabes. Inutile de nier, je sais tout. C'est vous le voleur de la Banque d'Angleterre. Je vous ai reconnu quand vous êtes embarqué à Southampton. J'avais en poche votre signalement ainsi que celui de votre maîtresse. « Pardon, se récria la femme, je suis l'épouse légitime de M. Pickman. » Je crus inutile de répondre. Posant ma main gauche sur l'épaule de Richard Stone, je repris en enflant la voix. « Préparez-vous à me suivre, mais auparavant, veuillez me remettre les clés de vos malles. »« Voici, » fit Stone d'une voix blanche, en me tendant un trousseau de clés. « C'est bien, passez devant moi, et vous aussi, madame. »« Oh, mon petit Colombo, » gémit la triste compagne du voleur. « Il n'y a plus de Colombo, » répondis-je sèchement. « Vous avez devant vous M. Alan Dixon, détective. Alors, attendons-nous. »« Mais c'est dégoûtant d'agir ainsi, » murmura Mme Pickman. « Il est encore plus dégoûtant, » répliquai-je en la regardant sévèrement, « de s'approprier le bien d'autrui. » Pickman ne disait rien. Tout à coup, il fit un signe à sa femme, et j'avais deviné leurs intentions. Il voulait se jeter sur moi. Braquant sur l'homme le canon de mon revolver, je dis d'un ton sec, « À la moindre velléité de résistance, je vous tue sans pitié, c'est mon droit. » Les Pickman étaient atterrés. « Allons, ouvrez-moi vos malles. » Nous étions maintenant dans la chambre à coucher. Il y avait là une armoire en pichepin encastrée dans la cloison et formant placard. Mes anciens amis avaient maintenant une mine si bouleversée que vraiment ils me faisaient de la peine. Mais ce n'était pas le moment de se laisser apitoyer, il fallait mener cette affaire vite et bien. Docilement, avec des gestes maladroits, l'homme sortait d'une malle de pauvre nippe toute fripée, du linge commun, sans marque, et qui avait encore la raideur du neuf. La femme s'était jetée dans un fauteuil et sanglotait la tête entre les mains. J'étais de plus en plus ému devant cette détresse et dû me faire violence pour continuer à jouer mon rôle. Ces gens, après tout, avaient été bons pour moi, ils me considéraient comme leur ami, et je les avais trahis. « Oh, argent maudit, maudit argent, mais quelle vilainie tu nous fais parfois commettre !» Les malles étaient vides. Pickman, ou du moins Richard Stone, tourna vers moi une pauvre figure décomposée. « Vous voyez, il n'y a rien, » dit-il. « Bon, alors les valises, maintenant. » Les sanglots de la femme redoublèrent. Richard Stone, toujours à genoux sur le parquet, demeurait immobile. « Eh bien, avez-vous entendu, répétai-je, vos valises ?»« N'en est qu'une, elle contient simplement des papiers sans importance. »« Ouvrez-la. » Le malheureux se mit debout. En chancelant, il se dirigea vers un coin de la pièce et faisant glisser un rideau sur sa tringle, découvrit un petit réduit qui servait de cabinet de débarras. Il y avait là une valise toute neuve, une de ces valises en pécamoïde, comme en ont les gens modestes qui vont en villégiature, dans les petits trous pas chers. Cependant, Richard Stone ne parvenait pas à l'ouvrir. Je lui donnai un coup de main et arrivai assez facilement à faire jouer la serrure récalcitrante, l'habitude. Ne vous l'avez bien dit, murmura le malheureux Stone. Elle contient que des papiers et des faux cols sales. C'est bien, bon, à l'autre. Mais quel autre? Mais votre mallette en peau de porc. Stone devint blême. Sa bouche s'agita comme s'il mâchait du caoutchouc. Quant à sa femme, elle se laissa glisser de son fauteuil et s'agenouilla en bégayant. « Oh, Colombo, pardon, monsieur Alan Dixon, ayez pitié de nous. Vous savez bien que nous ne sommes pas de méchantes gens. Nous vous l'avons prouvé, nous avions pour vous beaucoup d'amitié, nous... »« La mallette, dis-je d'un ton impératif. Si vous ne voulez pas me la remettre, je vais la prendre moi-même. » Stone comprit que tout était perdu. Il s'exécuta. Oh, oh, fis-je après avoir ouvert la mallette coffre-fort. Voilà des papiers qui ressemblent joliment à des banquenotes. Mais vous en avez une vraie collection. By God! Quand vous vous y mettez, Richard Stone, c'est pour de bon. Combien cela représente-t-il de livres? « Je ne sais, » balbutia le malheureux. « Ah, vous ne savez pas. Eh bien, nous allons compter un peu. Si j'en crois les journaux, il doit y avoir là 200 000 livres. Voyons. Oh, vous avez eu soin de faire des liasses. C'est une bonne précaution, Richardson. On voit que vous avez l'habitude de manier les fonds. Si je ne me trompe, vous étiez sous-caissier adjoint à la Banque d'Angleterre. « Ah, il est fort heureux que la banque n'ait pas plusieurs employés comme vous, car elle serait vite à sec. Permettez-moi de vous dire cependant que vous avez eu la main un peu lourde. Ne pouviez-vous vous contenter d'une 20 000 livres? Vous vous êtes dit sans doute que lorsque l'on prend, on saurait trop prendre. Mais vous avez fait un faux calcul. Le trou était vraiment trop considérable, aussi s'en est-on aperçu tout de suite. » Il est vrai que vous eussiez payé autant pour 20 000 livres que pour 200 000. 5 ans dehors de l'arbre, pour le moins. Plus peut-être, car on vous refusera certainement le bénéfice des circonstances atténuantes. Ah, la cellule, le moulin de discipline, le mal de mer de rien à côté de cela. Vous résisterez peut-être à la terrible vie de Reading, mais votre complice, quel sort sera le sien? Pauvre femme. Et en disant ces derniers mots, je regardais d'un air attendri Madame Richard Stone, qui, debout au milieu de la pièce, semblait ne plus avoir conscience de ce qui se passait. Pourtant, elle entendit ce que je venais de dire, un long frisson l'agita, elle poussa un cri rauque et vint de nouveau se jeter à mes pieds en bégayant « Oh, pitié, monsieur, pitié !» « Si vous nous arrêtez, c'est la mort pour mon mari et pour moi. » Stone, ahuri, ne disait rien. Son regard était celui d'un fou. « Pitié !» continuait la femme en m'embrassant les genoux. « Nous sommes des misérables, mais je me repens de ce que nous avons fait. Vous êtes, je le sais, obligé d'accomplir votre devoir, que vous êtes un honnête homme, vous, mais je vous en supplie, laissez-vous attendrir. » Vous avez du cœur, n'est-ce pas? Vous ne voudriez pas envoyer à la mort deux pauvres êtres qui ont cédé à un moment de folie. Nous étions si malheureux, mon mari et moi. Ils se tuaient à travailler pour arriver à peine à gagner de quoi nous faire vivre. J'avais beau faire mon ménage moi-même, dépenser le moins possible, il nous était impossible de joindre les deux bouts. On est si peu payés à la Banque d'Angleterre. Si les grands chefs s'allouent des traitements scandaleux, les pauvres petits employés comme mon mari ont des appointements dérisoires. Tenez, monsieur, vous ne le croiriez pas. Il y a quelques mois, j'ai été malade. Eh bien, nous n'avons pas pu acheter des médicaments. C'est la vérité, je vous le jure. Richard souffrait, car c'est un brave homme que Richard. Un jour, il a perdu la tête, alors... Oh, c'est affreux. Je vous en supplie, monsieur Dixon... Au nom de l'amitié que nous avons pour vous, quand nous vous considérions comme un simple matelot, épargnez-nous. Prenez-le, ce maudit argent, rendez-le à la Banque d'Angleterre, mais ne nous arrêtez pas. J'en mourrai, et Richard aussi. J'étais ému. Je sentais mes yeux se mouiller. Quel homme ne se fût pas apitoyé devant une telle détresse? J'avais honte de ma conduite à l'égard de ces malheureux que j'avais indignement trompés. C'était lâche ce que j'avais fait. C'était ignoble. Pour un peu, j'eusse tout avoué à ces pauvres gens, mais le sens pratique qui ne m'abandonne jamais, même dans les circonstances les plus graves, refréna le mouvement de générosité auquel j'étais prêt d'obéir. Moi aussi, j'avais souffert, et j'allais souffrir encore si je ne profitais pas de l'occasion qui m'était offerte de m'enrichir enfin. Je relevai la femme, toujours prostrée à mes pieds, la regardai longuement et laissai tomber ces mots. Voyez, madame, que je souffre autant que vous. Jamais, depuis que j'exerce le métier de détective, je n'étais si troublé que je le suis en ce moment. Moi aussi, je m'étais attaché à vous, et j'ai hésité longtemps avant de me décider à accomplir ce que je considère comme mon devoir. Je vous plains, oui, je vous plains de tout mon cœur, et tenez, dussé-je un jour payer cher ce geste d'humanité, je consens. Richard Stone s'était approché, sa femme m'embrassait les mains en bégayant. Oh, oh, je savais bien que vous étiez bon, je savais bien que vous aviez du cœur, monsieur Dixon. Je consens, repris-je, presque à voix basse, en courbant la tête comme un homme écrasé par l'aveu qu'il va faire. Je consens à vous sauver. Oh, merci, merci, s'écria Stone. Oh, je vous dois plus que la vie. Et tenez cet argent, eh bien, je vous en donne la moitié. Oui, la moitié, c'est pas trop pour récompenser un tel service. Je pris un air offensé. Ah, vous ne m'avez pas compris, et la proposition que vous me faites me blesse profondément. Je croyais que vous m'aviez mieux jugé. Pardon, fit Madame Stone, mon mari supposait. Ah oui, que j'étais un de ces individus que l'on peut acheter. Il s'est grossièrement trompé. Si je cède en ce moment à la pitié, je ne saurais le faire au détriment de ma dignité, et ternir par un acte indélicat toute une vie d'honneur et de droiture. Les fonctions que j'exerce me mettent parfois dans des situations bien pénibles, et il me faut souvent une réelle volonté pour les remplir. Cependant, si je suis impitoyable quand je me trouve en présence de bandits professionnels, je sais aussi faire preuve d'indulgence à l'égard des malheureux qui, dans une heure d'égarement, ont commis une lourde faute. Monsieur et Madame Stone me regardaient anxieux. « Je vous remercie avec reconnaissance, » dit Stone en s'inclinant. Il ignorait où je voulais en venir, mais il avait quand même repris confiance. « Oui, monsieur Dixon, nous vous remercions du fond du cœur, » ajouta la femme d'une voix sanglotante. Je conservais toujours un air grave, l'air qui sied à l'homme de police, obligé d'accomplir une pénible mission. « Je dois, » repris-je après avoir réfléchi un instant, « prendre avant tout les intérêts de ceux dont je suis le représentant. Or, ici, je représente la Banque d'Angleterre. Elle a été lésée. 200 000 livres manquent dans ses caisses. Vous me direz qu'elle est assez riche pour supporter une pareille perte, mais si l'on raisonnait ainsi, où irions-nous, grand Dieu ? Du moment que la banque rentrera dans son argent, elle devra s'estimer satisfaite. Mais la sanction sur laquelle elle compte pour inspirer à ceux qui seraient tentés de vous imiter une crainte que j'appellerais salutaire, cette sanction lui échappera. Il faut que vous disparaissiez à jamais. » Stone roulait des yeux égarés. Je ménageais mes effets, comme l'avait fait avec moi Alan Dixon. Et je crois que si le grand détective avait pu me voir et m'entendre, il n'eût rien trouvé à reprendre ma façon de procéder. La leçon qu'il m'avait donnée et qui m'avait coûté si cher n'avait pas été inutile. « Oui, Stone, repris-je, vous allez disparaître. Pour tout le monde, mais surtout pour la Banque d'Angleterre, il faut que vous soyez rayé du nombre des vivants. » « Mais comment, Monsieur Dixon, s'écria le pauvre Stone effaré, vous voulez... Mais laissez-moi donc achever, voyons. Oui, il faut que vous disparaissiez. À partir de ce jour, vous n'existez plus. Je dirais qu'au moment où je me suis présenté pour vous arrêter, vous vous êtes donné la mort et que votre femme affolée s'est jetée à la mer et s'est noyée, bien entendu. » Voilà donc une première question réglée. Les voleurs ont par le suicide échappé à la justice, mais reste la question d'argent. Si je vous enlève la totalité de la somme qui se trouve ici, il vous sera impossible de payer la location du Sigoul et le capitaine vous fera arrêter. La police officielle s'emparera de l'affaire et le vol de la banque reviendra sur l'eau. Vous serez jugé, condamné, et je ne pourrai point vous sauver cette fois. Donc, voici ce que j'ai décidé. Je rendrai à la Banque d'Angleterre 150 000 livres et vous en laisserai 50 000. Avec cela, vous pourrez vous tirer d'affaire et mener au Brésil ou ailleurs, sous le nom de Pickman, une petite vie tranquille. « Oh, merci, merci, monsieur Dixon !» s'écria madame Stone en couvrant mes mains de baisers. « Oh, vous êtes un brave cœur. Oui, 50 000 livres nous suffiront. Nous avons des goûts modestes, vous le savez bien. » Richard Stone me remerciait lui aussi et appelait sur ma tête toutes les bénédictions du ciel. Il alla prendre dans la mallette en peau de porc les 150 000 livres que je devais rendre à la Banque d'Angleterre, et me le remit en disant « Voici, monsieur Dixon, veuillez vérifier. Inutile, j'ai confiance en vous. Au moment où je vous sauve la vie, vous ne voudriez tout de même pas me tromper, je suppose. » Et j'enfouis les liasses dans les poches de ma vareuse, dans celles de mon pantalon, puis entre ma chemise et ma peau. Cela fait, je dis à mes deux voleurs, « maintenant, vous allez continuer à faire route pour le Brésil à bord de ce bâtiment. » « Et le capitaine, fit Snowden, que dira-t-il? Il sait que... » « Non, le capitaine ne sait rien. Vous pensez bien que je n'ai pas été assez sot quand je me suis présenté à lui pour lui révéler le but exact de ma mission. J'avais en main un ordre du Lord Chief of Justice et de l'inspecteur principal de Scotland Yard. Cet ordre porte simplement ces mots « Alan Dixon, détective accrédité auprès des autorités judiciaires du Royaume-Uni, est à la recherche d'un malfaiteur. Tous ceux à qui il montrera la présence sont invités à le seconder et au besoin à lui prêter main forte. » Le capitaine a bien cherché à savoir quel était l'homme que je soupçonnais. Je me suis retranché derrière le secret professionnel. « Mais, demanda Stone, que lui direz-vous en quittant le bateau ?»« Bien, je lui dirai que je croyais avoir découvert parmi les hommes de son équipage un récidiviste dangereux, mais que j'avais été trompé par une vague ressemblance. »« Et vous allez partir ?»« Oui, aujourd'hui même. Et si là-bas vous lisez les journaux, vous apprendrez un jour que la Banque d'Angleterre est rentrée en possession de 150 000 livres. Et comment expliquerez-vous la disparition des 50 autres, celles que vous avez la générosité de me laisser? Bien, je dirais qu'au moment où vous vous êtes donné la mort, vous aviez déjà dépensé cet argent, que vous l'aviez perdu au jeu dans un casino quelconque. Enfin, cela se voit journellement. « Oh, monsieur Dixon, quelle reconnaissance nous vous devons, ma femme et moi. Et si un jour vous venez au Brésil, Il est possible que j'aille un jour vous rendre visite, car vraiment j'ai pour vous une réelle sympathie. Je viens de vous le prouver d'ailleurs. Puisse cette sympathie ne pas m'être funeste, enfin. La banque recouvrera une partie des fonds volés, ce sera déjà quelque chose. Comme elle avait promis une prime de 10 000 livres à celui qui retrouverait le voleur, ou l'argent, je toucherai cette prime. Ce sera ma commission dans cette affaire. Et la banque ne perdra donc que 60 000 livres au lieu de 200 000. Mais attention, n'allez pas vous faire prendre. Voyez-vous que là-bas, en Angleterre, on a les numéros des banques-notes volées. Oh, il y en a à craindre, répondit Stone. C'est moi qui, à la banque, comptais les liesses et les serrais ensuite dans les coffres. Oh, je suis sûr qu'on ne possède pas les numéros des banques-notes. Vous en êtes absolument sûr? Oh oui, vous pouvez me croire. Cette réponse que j'avais provoquée à dessein me rassurait complètement. On entendait dans le navire des pas précipités, des coups de sifflet, des appels et un long grincement de poulies. Le cigoule appareillait. Il était temps que je file. Adieu, dis-je aux époux Stone. Suivez bien exactement mes recommandations. N'oubliez pas que le moindre mot, la plus légère imprudence, peuvent vous perdre. Si vous vous faisiez prendre, je ne pourrais plus rien pour vous. Vous retournez en Angleterre? Demanda Stone. Oui, et le plus vite possible. Vous êtes bien heureux. Nous autres, nous voguons vers l'exil et nous ne reverrons jamais notre pays. C'est dur, croyez-le. Mais le hard de la mort est encore plus dur. Allons, séparons-nous. Stone me serra la main et sa femme m'embrassa avec effusion. Je brusquai la séparation en disant: De la prudence, hein, continuez à vivre sur ce bateau comme vous l'avez fait jusqu'alors et méfiez-vous du capitaine. J'allais sortir quand Stone me retint. Et l'autre? Demanda-t-il. Quel autre? Ben, l'individu qui ne sort jamais de sa cabine et se promène la nuit sur le pont. Bon, ne vous en inquiétez pas, je l'emmène avec moi. Adieu. Chapitre 21. Nouvelles inquiétudes. Au lieu de me diriger vers la cuisine où m'attendait ce pauvre Zanzibar, je montais sur le pont par l'escalier du panneau arrière, m'engageais sur la passerelle et quittais pour toujours le Sigoule. Libre, j'étais libre. Libre avec 150 000 livres en poche et un diamant qui en valait bien autant. J'étais certainement à l'heure actuelle l'homme le plus riche de Santa Cruz. À peine sorti du Sigoule, j'allais m'installer sur un petit promontoire situé à gauche du port. De cet endroit, j'apercevais très distinctement le bassin où était encore amarré le bâtiment du capitaine Ross. Je voyais les hommes courir sur le pont et procéder à l'appareillage. Le Sigoule allait sortir sans se faire remorquer. On avait déjà hissé les focs et la voile d'Artimon. Une demi-heure s'écoula, puis une heure. La goélette était toujours à quai et la passerelle n'avait pas encore été enlevée. Que se passait-il donc? Les Stone auraient-ils parlé? Non, cela était impossible. Ils avaient tout intérêt à se taire alors. Peut-être s'était-on aperçu de mon absence et le capitaine me faisait-il rechercher? Oh, je ne vivais plus. Enfin, les ailes blanches du Sigoule battirent au vent et il glissa lentement le long du quai. Il allait prendre le large, pourvu qu'il continuât sa route et ne s'arrêtât point en rade. Je le suivais d'un œil inquiet. Bientôt, il quitta le chenal et s'engagea en haute mer. À cette minute, je me sentis rassuré. On hissait les huniers et le flèche arrière. La brise était faible et le capitaine Ross étalait toute sa toile. Peu à peu, le Sigoule diminua, parut s'enfoncer dans la mer, et quand je m'aperçus plus à l'horizon que ses hautes voiles, je me mis à fredonner gaiement le Britannia, Britannia rules the waves, qui est, comme on sait, l'hymne de la marine anglaise. Maintenant, la goélette semblait s'être engloutie dans les flots. Richard Stone et sa femme, délestés de 150 000 livres, voguaient vers le Brésil, terre hospitalière s'il en fut, et l'une des plus belles contrées du monde. De quoi pouvaient-ils se plaindre? Ils avaient de l'argent et pourraient là-bas filer une bonne petite existence à l'ombre des palmiers, des bambous et des cacaoyers. Ils n'avaient qu'une chose à redouter, c'était que la police avisée par TSF ne les arrêtât au débarcadère de Rio. Mais cela était peu probable. En tout cas, si on les arrêtait, qu'avais-je à craindre? Rien, absolument rien. Qui donc les croirait quand ils affirmeraient qu'un détective leur avait soulevé 150 000 livres? J'étais donc tranquille de ce côté. De l'autre, c'est-à-dire en ce qui concernait ma propre sécurité, je l'étais moins. J'allais de nouveau voyager, retourner en Europe, et Dieu seul savait quelle nouvelle surprise me réservait l'avenir. Il était à peu près certain que je ne rencontrerais plus Bill Sharper ni Manzana, mais le hasard est si capricieux. Enfin, je verrai bien. Ma situation s'était en tout cas sérieusement améliorée, puisque j'étais maintenant en possession de 150 000 livres. Mon diamant me devenait inutile. Qu'en ferais-je à présent? Cependant, une nouvelle inquiétude ne tarda pas à m'envahir. S'il était facile de dissimuler le régent, il était beaucoup moins facile de dissimuler les liasses de banknotes dont mes poches étaient remplies. J'étais littéralement bourré de billets. J'en avais partout, dans ma vareuse, dans mon pantalon, sur ma poitrine. Et comment pourrais-je, avec un pareil chargement, remplir mes fonctions de soutier à bord du vapeur espagnol qui devait m'emmener à Cadix? Avant de descendre en ville, je m'efforçais de mieux arrimer sur mon individu le précieux chargement qui devait assurer mon existence future. Je glissais toutes mes banknotes entre ma chemise de flanelle et ma peau, mais cela ne me donnait un tel embonpoint que je me vis de nouveau obligé de répartir ces jolis papiers dans mes poches. Décidément, il m'était impossible de m'embarquer avec ce matelas de banknotes. Que faire? Jusqu'à la nuit, je demeurai sur le promontoire où je m'étais installé pour surveiller le départ du Sigoule. Quand l'obscurité se fit, assez brusquement, comme dans toutes les régions voisines des tropiques, je rentrai en ville. Je venais de changer complètement mes batteries. Au lieu de me diriger vers le port où m'attendait le vapeur espagnol, je m'acheminais vers un quartier où l'on voyait de nombreuses boutiques. Des gens vêtus de costumes bizarres circulaient dans les rues. Il y avait là des Arabes, des Nègres, des Chinois et des Anglais, bien entendu, car il n'est pas un endroit du monde où l'on ne rencontre un fils de la fière Albion avec son Baedeker à la main. L'anglais est un grand voyageur, il est partout, excepté en Angleterre. Les Français, qui sont narquois, prétendent que nous voyageons beaucoup parce que notre pays manque de gaieté et que nous allons chercher chez les autres ce que nous ne trouvons pas chez nous. C'est possible. J'ai dit plus haut que j'avais renoncé à m'embarquer comme soutier. J'avais une idée. On a pu remarquer que j'ai quelquefois des idées, je crois que j'aurais pu faire un romancier. Or, cette idée, qui n'avait rien de génial, devait, si elle réussissait, me conduire enfin au port où je ferais ma dernière escale. Après avoir arrêté une chambre dans un hôtel espagnol tenu par un Bavarois, je fis emplette d'une belle valise en cuir, munie de solides serrures. Je rentrai à l'hôtel, mets mes banknotes dans la valise, gardais celui-ci à la main, bien entendu, et me rendis dans divers magasins. J'achetai un veston gris à martingale avec plis dans le dos, une culotte bouffante, des bas de laine écossais, des souliers jaunes à large semelle, une casquette de drap, un gilet en poil de chameau, des chemises de flanelle et un manteau imperméable. Mes emplettes terminées, je réintégrai ma cuarto, me débarbouillai et revêtis mon complet de touriste. Au restaurant où j'allais ensuite, toujours avec ma valise, je fis la connaissance d'un pasteur anglais qui était venu aux Canaries rendre visite à un de ses parents. Ce révérend, qui était fort bavard, devint bientôt mon ami. Il m'apprit qu'il partait le lendemain pour Cadix. De là, il se rendrait à Madrid pour assister à une course de taureaux. Ensuite, il regagnerait l'Angleterre en traversant la France, qu'il ne connaissait pas et dont les nombreuses attractions excitaient sa curiosité. La compagnie de ce pasteur m'était précieuse. Il ne me manquait plus que des papiers, car je pouvais songer à utiliser ce que j'avais dérobé à Jim Corbett. Bon, je me les procurais assez facilement. Il y avait à côté de nous, à table, un gros Anglais qui buvait porto sur porto et qui ne tarda pas à être complètement ivre. Le pasteur et moi le reconduisîmes à son hôtel, et je ne manquais pas, durant le trajet, d'explorer les poches de ce brave compatriote. J'étais maintenant nanti et je pouvais présenter aux agents de police et aux employés du bateau les papiers du colonel George Flick, né à Birmingham le 16 octobre 1880, titulaire de l'ordre de la Couronne des Indes et de la Military Cross. La seule chose que j'eusse à craindre maintenant, c'était que cet intempérant colonel s'embarqua sur le même vapeur que moi, mais je le tiendrai sur mes gardes. Par bonheur, le pasteur et moi le retrouvâmes le lendemain au même restaurant, et il nous raconta sa mésaventure. J'appris aussi qu'il resterait encore à Santa Cruz une quinzaine de jours. Je ne risquais donc pas de le rencontrer sur le bateau. Tout s'arrangeait au gré de mes désirs et je me sentais plus tranquille. J'employai la journée qui me restait à parcourir la ville, toujours en compagnie du révérend, qui devenait passablement rasoir. L'heure du départ arriva enfin. Je pris mes billets ainsi que ceux du pasteur, générosité qui me valut la bénédiction du brave homme, et n'eus à décliner ni mon nom ni celui de mon compagnon. À Santa Cruz, on est moins formaliste qu'en Angleterre. Du moment que l'on paye, on ne vous demande pas qui vous êtes ni d'où vous venez. Le paquebot sur lequel nous embarquâmes s'appelait le Velasquez. Il était peint en bleu, un bleu cru, criard et commun, qui eût fait hurler, sans nul doute, l'illustre parrain dont il avait pris le nom. Ses cabines étaient loin d'être confortables, mais quand on a, comme moi, habité des taudis infects, on ne se montre guère difficile. Cependant, à peine à bord, je compris qu'il me serait impossible de me promener continuellement avec ma valise à la main. Je ne pouvais pourtant pas la laisser dans ma cabine. Je pris donc le parti de simuler un malaise, et pendant les 3 jours que dura la traversée, je demeurai couché. Le pasteur venait me voir et le steward m'apportait mes repas. Nous atteignîmes enfin Cadix. Là, le révérend et moi, nous nous séparâmes, et je pris aussitôt le train pour Algésiras. Je m'étais renseigné, mon but était de gagner Gibraltar, et de prendre là le PIENO, c'est-à-dire le Peninsulaire Oriental, qui devait en 48 heures me déposer à Marseille. Il y a à Cadix un petit chemin de fer que l'on appelle la Tortuga et qui vous conduit quelquefois à Algésiras. Je dis quelquefois car il arrive que le train s'arrête en route. Sa machine est très vieille et s'essouffle facilement. Elle a besoin de continuelles réparations que l'on exécute souvent durant le trajet. Les voyageurs sont alors obligés de descendre et de camper dans la plaine en attendant que la Tortuga puisse repartir. J'eus la chance de ne pas m'arrêter en route et j'arrivai assez rapidement à Algésiras, ville de 12 000 habitants, devant laquelle en 1801 l'amiral Linois vainquit la flotte anglaise. Une baie sépare Algésiras de Gibraltar et on la traverse en une demi-heure environ à bord d'une vedette. À Gibraltar, je me retrouvais chez moi, c'est-à-dire en Angleterre, et mon orgueil national, qui venait d'être un peu humilié à Algésiras, s'enflamma de nouveau devant le colossal rocher que nous avons transformé en forteresse et qui commence l'entrée de la mer méditerranéenne. Pourquoi faut-il, hélas, que je me retrouve en territoire anglais? Il m'arrive toujours quelques mésaventures. À Gibraltar, les difficultés commencèrent. D'abord, on nous demande nos papiers, puis les douaniers visitent nos valises, et j'eus beau affirmer que la mienne ne contenait rien qui fût « layer to duty », on me força à l'ouvrir, et on s'imagine sans peine la stupéfaction du douanier quand il vit mon matelas de banque-notes. Il appela son chef, qui ne fut pas moins étonné que lui, puis me posa quelques questions auxquelles je répondis avec mon aplomb habituel. Cet argent est destiné au gouvernement anglais. Je suis le colonel George Flick, attaché d'ambassade. Les douaniers s'inclinèrent et me firent même des excuses, mais ce petit incident m'avait mis, comme on dit, la puce à l'oreille. Si je m'embarquais à bord du Peninsular Oriental, on me forcerait sans doute à ouvrir encore ma valise. J'avoue que je me trouvais bien embarrassé. Comme le Peninsular ne passait que le lendemain à 4 heures de l'après-midi, j'avais tout le temps de réfléchir. Je songeais à déposer une partie de ma fortune dans une banque de Gibraltar et à conserver sur moi l'autre moitié, mais cette solution ne me satisfaisait point. Après m'être longtemps torturé l'esprit, je résolus de retourner à Cadix et de prendre le train pour Madrid. Là, je m'embarquerai dans le Sud Express et filerai sur Saint-Sébastien. Après, oh dame, après je verrai.
Chapitre 22, où tout commence à s'arranger. Cependant, mon arrivée à Gibraltar avait déjà été signalée. Les douaniers avaient jasé et le chef de police me faisait surveiller. Partout où j'allais, ma valise à la main, je voyais derrière moi un grand escogriffe chaussé de sandales à semelles de paille. Je résolus de le semer et y parvins assez facilement, puis je me réfugiai dans un café où se trouvaient réunis une dizaine de soldats anglais. J'y demeurai jusqu'à la nuit tombante et réussis à m'embarquer dans la dernière vedette qui fait le service entre Gibraltar et Algésiras. À 11 heures du soir, j'étais de nouveau à Cadix. Je pris une chambre dans un quartier populeux et le lendemain, dès le lever du soleil, je sortais, ma valise à la main. Cadix est, ma foi, une fort jolie ville. Ses maisons, badigeonnées de nuances claires, sont plaisantes à voir, et je me suis laissé dire que ses habitants sont réputés pour leur amour du plaisir, leur vivacité, leur talent de répartie et aussi leur élégance. Le port est en relation d'affaires avec le monde entier et expédie surtout en Angleterre de nombreux minerais. Cette ville m'a beaucoup plu et il est possible que j'y revienne un jour avec Edith. Pauvre Edith, qu'était-elle devenue? Les quelques livres que je lui avais donnés lors de son départ devaient tirer à leur fin. Brusquement, de sombres pensées m'envahirent. Le passé d'Edith défila devant mes yeux. Je la revis rôdant dans le Strand, surveillée par Manzana, arpentant le trottoir comme ces streetwalkers qui m'ont toujours fait horreur. Je me demandais si vraiment je devais aller la retrouver à Paris. Mais bientôt j'étais pris de pitié pour elle au souvenir de ses malheurs et je la plaignais. N'était-ce pas moi qui l'avais précipité dans l'abîme ? Nous étions deux malheureux que la fatalité avait poursuivis. Si Edith avait de lourdes fautes sur la conscience, avais-je le droit, moi, le numéro 33 de Reading Call, de lui adresser des reproches ? Elle avait souffert, moi aussi. Le mieux était de tout oublier, car un homme comme moi doit être indulgent envers les autres. Quand on s'appelle Edgar Pipe, on ne peut guère s'instituer redresseur de tort. Ou il est vrai que dans la vie, ce sont généralement les gens les plus tarés qui posent à la vertu, mais moi je déteste les faux bons hommes. Ne serait-ce pas ignoble de repousser aujourd'hui, parce que je suis riche, une pauvre fille qui a eu pour moi de l'amour et qui en a encore, plus qu'avant peut-être, car elle a pu apprécier mon cœur. D'ailleurs, je lui avais promis de ne pas l'abandonner, et je n'ai qu'une parole. Tout en roulant ces bonnes pensées dans ma tête, j'étais arrivé à la gare. Je voulus m'informer de l'heure des trains, mais ne sachant pas un mot d'espagnol, je dus recourir à un interprète, un Allemand, qui prononçait l'anglais comme un juif de Russell Street. Il m'apprit qu'il y avait un train pour Madrid à 8h15 du soir, mais que l'on n'y acceptait que des voyageurs de première classe. J'aimais mieux cela, au moins je pourrais me reposer dans un wagon bien capitonné. Je devenais difficile depuis que j'avais de la fortune. Ce luxe que j'avais toujours envié, j'allais donc enfin pouvoir me le payer. Ah, brave Richard Stone, quelle reconnaissance je vous devais, et comme je regrettais de vous avoir si odieusement trompé. C'est vraiment une chose dégoûtante que ce que nous appelons en Angleterre « the struggle for life », la lutte pour la vie. Comme cette maudite question d'argent rend parfois les hommes cruels et féroces. Pas tous, cependant, car j'étais bien sûr que le pauvre Zanzibar, qui n'était qu'un nègre, eût été incapable d'une lâcheté. Oh, je pourrais vous raconter comment j'allais de Cadiz à Madrid et de Madrid à Saint-Sébastien, mais j'écris des mémoires et non un roman de voyage. Mon récit ne reprend d'ailleurs quelque intérêt qu'à Saint-Sébastien. J'étais là, tout près de la France, il ne s'agissait plus que de passer la frontière sans attirer l'attention des douaniers. Je résolus de me reposer quelques jours avant de me remettre en route. J'avais besoin de réfléchir longuement car j'arrivais à ma dernière escale et il eût été stupide de tout compromettre par une imprudence au moment de toucher au port. J'avais décidé, je crois l'avoir dit, de me fixer momentanément à Paris. À Paris, quelle audace, diront certains lecteurs. Non, je savais ce que je faisais, on le verra plus loin. Avec moi, on va toujours de surprise en surprise. Une fois à Paris, je déposerai petit à petit ma fortune dans plusieurs banques, mais il me fallait pour cela me procurer un état civil. Les papiers du colonel Flick ne pouvaient me servir, d'abord parce que le colonel pouvait un jour apprendre que j'usurpais son nom, ensuite parce que ce nom, qui est très bien porté en Angleterre, sonne très mal en France. J'arriverai bien avec de l'argent, que n'a-t-on pas quand on y met le prix, à faire établir toutes les pièces d'identité qui m'étaient nécessaires. Je sais que l'on peut très bien vivre dans une ville sans avoir à produire à chaque instant son acte de naissance ou son casier judiciaire, mais il faut toujours être muni de papier. D'ailleurs, pour effectuer mes dépôts en banque, des pièces d'identité me seraient nécessaires. J'avais pris une chambre sur la Concha dans un splendide hôtel dont les fenêtres donnaient sur la mer. C'était la saison à Saint-Sébastien. Le roi et la reine venaient d'arriver et toute l'aristocratie espagnole les avait suivis. Je profitais de mon séjour dans cette ville pour monter ma garde-robe. Je me fis faire plusieurs complets, un smoking, des chaussures, et redevins tout à fait un gentleman. Cependant, avec ma valise en cuir jaune que je traînais toujours avec moi, je finissais par me faire remarquer. On me prenait pour un marchand de diamants, et un jour, un client de l'hôtel me demanda si je n'avais pas quelques perles à vendre. Une autre fois, une vieille dame offrit de me céder des rubis, et un garçon d'hôtel me pria de lui expertiser une bague ornée de pierres fines qu'un voyageur lui avait laissée en gage. Et c'était à devenir fou. Ce qui m'ennuyait aussi, c'était de voir les autres s'amuser et de ne pas pouvoir les imiter. Avec cette valise que je n'osais pas abandonner 5 minutes, je ne pouvais aller ni au casino, ni au théâtre, ni au dancing. Je trouvais cependant le moyen de m'en débarrasser, et voici comment. J'achetais 2 grosses serviettes de maroquin, dans lesquelles je serrais mes précieuses banquenotes, et me rendis à la Banco d'Espagna. Là, je louai un coffre, dont on me donna la clé, et je pus dès lors jouir un peu de la vie. Je me fis inscrire au casino, taillai un petit bac et en gagnai 50 000 pesetas. Le lendemain, j'en gagnai 60 000 et le surlendemain, 80 000. Cette veine insolente me rendit un moment suspect et les inspecteurs ne me quittèrent plus des yeux. Je finis par perdre, fort heureusement, et dès lors, les joueurs me rendirent leur estime. Je perdis même assez gros, je sus m'arrêter à temps. Tous les jours, j'allais à la banque, ouvrais mon coffre, m'y enfouissais à demi et comptais mes banquenotes. J'avais fait la connaissance au cercle d'un jeune Américain nommé James Russ, qui jouait un jeu d'enfer. J'avais beau lui conseiller de se modérer, il ne m'écoutait pas, et comme la guigne le poursuivait, il finit par se ruiner. Ce qui devait arriver arriva. Un soir qu'il avait joué sur parole, il perdit 100 000 pesetas. « C'est la fin, » me dit-il. « Comment cela ?» demandai-je. « Oui, je suis arrivé au bout de mon rouleau. J'ai tenu un coup sur parole. J'ai plus qu'à me brûler la cervelle. »« Vous êtes fou, » lui dis-je. « Est-ce qu'on se brûle la cervelle pour 100 000 pesetas ?» Venez me voir demain à mon hôtel, je vous prêterai cette somme. Merci, me dit-il. Nous nous quittâmes. Le lendemain, à mon réveil, le valet de chambre m'apportait une lettre. Je déchirai l'enveloppe et lus. Mon cher monsieur Flick, hier soir, vous avez bien voulu m'offrir 100 000 pesetas. J'avais accepté, mais depuis j'ai réfléchi. Ces 100 000 pesetas, je les perdrai sûrement, car la déveine me poursuit. Je suis ruiné et ne me lèverai jamais. Il ne me reste qu'à me brûler la cervelle et c'est ce que je vais faire. Adieu. Votre reconnaissant quand même, James Bruce. Je me levai, m'habillai à la hâte et courus Calle del Retiro où habitait le malheureux. Je trouvai son domestique éploré. Bruce s'était tué. Pauvre garçon. Comme j'avais été son dernier ami, je m'occupais de le faire enterrer et payais tous les frais. Nous fûmes 3 à suivre le convoi, son valet de chambre, sa logeuse et moi, car l'enterrement avait lieu à 9 h du matin et les joueurs en général se lèvent fort tard. Pendant qu'un corbillard traîné par 2 chevaux maigres le transportait à sa dernière demeure, sous une pluie battante, ce qu'il avait enrichi, car Bruce avait laissé plus de 4 millions de pesetas sur le tapis, dormait tranquillement dans une chambre bien chaude. Sur les instances de la logeuse, une brave femme que ce suicide avait affolée, je consentis à examiner les papiers laissés par Bruce. Il n'avait pour toute famille qu'un vieil oncle éloigné qui habitait Baltimore et avec lequel, d'après ce qu'il m'avait confié, il n'entretenait plus de relations. Je jugeais inutile de prévenir le vieux Yankee. Bruce n'avait pas d'héritier. Il était donc assez naturel que je gardasse tout ce qu'il possédait, une montre marquée à ses initiales, deux bagues et divers papiers d'identité. Je réglai la logeuse ainsi que le valet de chambre et regagnai mon hôtel. Si j'ai été guéri de la passion du jeu, c'est à ce pauvre ami que je le dois. Depuis cet affreux drame, je n'ai jamais touché une carte. Après avoir longtemps réfléchi, je finis non sans répugnance par prendre une résolution qui s'imposait, me substituer aux disparus. Une fois que je serais à Paris, je me ferais appeler James Bruce. Le signalement de ce joueur malheureux correspondait assez exactement au mien, même figure rasée, même taille, même corpulence, même couleur d'yeux et de cheveux. Si l'on me demandait des papiers lorsque j'effectuerais mon dépôt en banque, je pourrais au moins en fournir. J'eusse préféré user d'un autre moyen, mais en attendant que je changeasse encore d'identité, j'adopterais le nom de Bruce. Cette importante question réglée, il me fallait gagner la France. J'avais pour cela deux raisons que l'on connaîtra bientôt. Depuis que je pouvais montrer des papiers, j'avais repris confiance, mais ce que je pouvais montrer plus difficilement, c'était mes banknotes. Les déposer dans une banque espagnole, il n'y fallait pas songer. D'autre part, les emporter dans ma valise, c'était bien compromettant. Il est vrai que j'étais maintenant sujet américain et que les Américains passent à tort ou à raison pour des originaux, mais vraiment, c'était pousser l'originalité un peu loin que de voyager avec 150 000 livres dans une valise. À Hendaye, on visite les bagages, et les douaniers qui ouvriraient ma valise ne manqueraient pas de prévenir le commissaire spécial de service à la gare. Ces douaniers ont beau voir beaucoup de choses dont ils ne s'étonnent pas, ils éprouveraient certainement quelques surprises en découvrant mon trésor. Un homme qui voyage sans le sou est toujours suspect, mais celui qui a trop d'argent sur lui ne l'est pas moins. Je pris le parti de bourrer mes poches de banknotes et d'en loger la plus grande partie dans la doublure de mon pardessus. J'allai donc chercher mes serviettes à la Banco de España, et de retour à l'hôtel, après avoir eu soin de boucher avec une cigarette le trou de la serrure, je procédai à mon matelassage. Ce travail accompli, je me regardai dans l'armoire à glace, en tenant mon pardessus sous le bras, et certain que je pouvais circuler dans les rues sans me faire remarquer, je réglai ma note d'hôtel, hélai un cocher et me fis conduire à la gare. Ce jour-là, c'était course de taureau à Saint-Sébastien, et ma voiture se fraya difficilement un chemin à travers la foule qui se dirigeait vers la Plaza. Enfin, j'arrivai à la station de chemin de fer. Un quart d'heure après, j'étais confortablement installé dans un wagon de première, et bientôt je filais vers la France. Il y avait dans mon compartiment deux messieurs qui m'avaient l'air d'affreux rasta et une dame très maquillée. Me rappelant la petite aventure qui m'était arrivée avec Manzana dans le train du Havre, je me gardais bien d'engager la conversation avec ces voyageurs. Dès que nous eûmes dépassé la frontière, les deux messieurs s'endormirent et la dame se mit à lire un roman français. À Bayonne, ils descendirent et je demeurai seul jusqu'à Bordeaux. Là montèrent trois gentlemen qui, durant tout le trajet, ne parlèrent que des Balkans et de la question d'Orient. L'un d'eux, ainsi que je l'appris en écoutant leur conversation, était un ministre français, un petit barbu à binocle dont j'ai oublié le nom. Les deux autres devaient être des députés. Avec de tels compagnons, je me sentais en sûreté. Je ne dormis point cependant, et quand on annonça le premier service du restaurant, je demeurai dans mon wagon. Dieu que le voyage me parut long. Il me semblait que jamais je n'atteindrais Paris. Enfin, le train s'arrêta, nous étions à la gare d'Orsay. J'arrêtai une chambre au terminus et me fis servir à dîner, après avoir remis dans mes deux serviettes de maroquin mes précieuses banknotes. Paris comptait un millionnaire de plus. Le lendemain, je pris un taxi, me fis conduire dans quatre banques où j'effectuais le dépôt de ma fortune, et à midi, j'étais enfin tranquille. J'avais gardé sur moi une centaine de livres. Pour la première fois, depuis longtemps, je commençais à respirer. Je fis une promenade à pied aux Champs-Élysées, déjeunai dans un grand restaurant et me dirigeai ensuite vers Montmartre. On se rappelle que j'avais recommandé à Edith de s'installer dans notre ancien quartier. J'espérais que peut-être le hasard me la ferait rencontrer, mais j'eus beau parcourir toutes les rues de la butte, je ne l'aperçus point. Était-elle à Paris ? Bien qu'elle m'eût promis de s'y rendre, ne s'était-elle pas ravisée à Southampton au moment de s'embarquer ? Non, non, cela était impossible. Il y avait trop de sincérité, trop d'amour dans son regard lorsque nous nous étions séparés. D'ailleurs, ne désirait-elle pas échapper à ce Bill Sharper et à cette horrible manzana qui la terrorisait ? Je résolus donc de m'établir momentanément à Montmartre. C'est un quartier que j'ai toujours aimé. On y rencontre des artistes, des littérateurs et de jolies femmes, et l'on n'y voit point de ces bourgeois stupides qui s'offusquent de tout et se calfeutrent dans leurs appartements à partir de 9 heures du soir. Montmartre est le quartier de la joie, de l'esprit, et on y travaille aussi, quoi qu'en disent certains grincheux qui ont peiné toute leur vie pour n'arriver à rien. Chapitre 23. La petite ouvrière qui trotte sous la pluie. Je m'installai rue de Maistre dans une chambre meublée des plus modestes. De ma fenêtre, j'apercevais le cimetière Montmartre, qui est sans contredit l'un des plus gais de Paris, avec ses arbres où chantent des milliers d'oiseaux et ses jolies allées bordées de géraniums et de fusains. C'est aussi un cimetière artistique, si je puis m'exprimer ainsi. Là dorment Lenner, Paul Delaroche, Horace Vernet, Fred de Neuville, Harry Schaeffer, Berlioz, Henri Heine, Stendhal, Alfred de Vigny, les frères Goncourt et Émile Zola. Ces illustres défunts n'y sont pas enfermés entre deux murailles grises comme à Westminster. Ils ont au-dessus d'eux le grand ciel bleu, l'immensité. Ceux qui trouvent que la vue d'un cimetière a quelque chose de triste sont à mon avis des gens primitifs qui ne comprennent rien, dont l'esprit obtus est incapable de penser et de se souvenir. Chaque jour, je faisais une longue promenade dans les rues qui montent vers le Sacré-Cœur, espérant enfin rencontrer Edith. Mais les jours succédaient aux jours et je commençais à croire que, décidément, ma maîtresse n'avait pu se résoudre à quitter l'Angleterre. Ainsi elle m'avait trompé, l'astucieuse créature. Ses pleurs, ses serments, tout cela c'était du chiquet, comme on dit en France, et je rageais d'avoir dans toute cette affaire joué le rôle de M. Jobard. Je finis cependant par me rassurer un peu. J'avais promis à ma maîtresse de lui écrire poste restante, mais la date que je lui avais fixée était bien vague, et bien lointaine encore. Tant que les délais ne seraient pas expirés, je n'avais pas le droit de maudire Edith. Je lisais beaucoup les journaux anglais, et non point pour y savourer l'éloquence mielleuse de M. Lloyd George, mais pour me tenir au courant des petits drames que nous appelons chez nous « Dearly Misdeeds ». Or, un matin, en ouvrant le Morning Post, un titre en caractère gras attira soudain mon attention. « The White Tract », et je lus. Notre grand détective Alan Dixon, qui depuis quelques années a remplacé le pauvre Sherlock Holmes, actuellement interné à Bedlam, vient de mettre la main sur deux ignobles trafiquants nommés Bill Sharper et Manzana. Cernés dans un bar de Pennsylvanie, ces bandits ont opposé une résistance désespérée. Conduits au poste de police et interrogés par le chief inspector, ils ont fini par entrer dans la voie des aveux et par reconnaître que depuis plusieurs mois, ils se livraient à la traite des Blanches. Ce ne serait point, paraît-il, le seul méfait qu'on aurait à leur reprocher, car Alan Dixon a relevé contre eux des charges accablantes, attaques nocturnes, vol avec effraction, tentatives d'assassinat. Il est probable qu'avant peu, ces dangereux malfaiteurs seront pour longtemps logés à Reading. Alan Dixon, que nous avons vu ce matin, est persuadé que l'instruction de cette affaire durera plusieurs semaines et qu'elle amènera à la découverte d'un grand nombre de méfaits dont les auteurs avaient jusqu'à présent échappé à la justice. Tout s'arrangeait au gré de mes désirs. Je n'avais plus à craindre ni Bill Sharper ni Manzana. Il est vrai que ce dernier n'était pas bien dangereux, puisque je ne risquais point, et pour cause, de le rencontrer à Paris. Mais Bill Sharper, qui venait souvent en France pour y chercher des cailles, aurait pu un jour ou l'autre se trouver en face de moi, et j'avais de sérieuses raisons pour l'éviter, du moins pour le moment. De ces deux ennemis, celui que je haïssais le plus, c'était certainement Manzana, car cet homme m'avait trop fait souffrir. Sa vilaine figure jaune, ses yeux fourbes, son affreuse voix cuivrée, et jusqu'à sa façon de prononcer Monsieur Pipe au lieu de Pipe, tout en lui m'était odieux. Et puis il y avait une chose qui me le rendait plus odieuse encore, la façon dont il avait abusé d'Edith. Ah, décidément, Alan Dixon venait de me rendre encore un fier service. Je dis encore, car si aujourd'hui j'étais riche, c'était grâce à lui. La carte qu'il m'avait remise à la gare de Waterloo avait été le talisman qui avait opéré sur le pauvre Richard Stone un si merveilleux effet. Si je devais à Alan Dixon 3 ans de hard labor, je lui devais aussi une fortune de 150 000 livres, et j'estimais que la compensation était largement suffisante. « On n'a rien sans peine », dit un proverbe français dont j'ai pu, mieux que tout autre, vérifier la justesse. Les jours passaient, je n'avais guère, jusqu'à présent, joui de mon énorme fortune. Je vivais modestement dans ma chambre de la rue de Mestre. Sur mon palier habitait un peintre du nom de Gerbier, un grand garçon sympathique et doux, que je voyais assez souvent, et que j'aidais parfois de ma bourse, car, comme tous les artistes qui se consacrent uniquement à l'art, il était très pauvre. Plutôt que de faire du commerce et de vendre à l'Amérique des faux coraux et des faux carrières, il préférait manger du pain sec et boire de l'eau. Il n'y a qu'en France que l'on voit de ces héroïsmes. Gerbier n'était pas seulement un peintre de talent, c'était aussi un remarquable violoniste, et il ne refusait point, quand je l'en priais, de me jouer les sonates de Bach, des danses de Brahms ou les concertos de Wieniawski. Comme il se plaignait toujours d'avoir un mauvais violon, un jour, pour lui faire une surprise, je lui payai un Bergonzi qu'un luthier de la rue de Rome avait garanti excellent. Il était en effet, trop peut-être, car à partir du jour où il eut cet instrument entre les mains, Gerbier laissa ses couleurs sécher sur sa palette. Je fus obligé, pour qu'il se remît au travail, de confisquer le violon. Je ne lui permettais plus de jouer qu'une heure le matin et 2 heures le soir. Jusqu'à présent, cet artiste était mon seul ami. Je lui dois beaucoup, car il m'a appris à aimer et aussi à apprécier les artistes tels que Cézanne, Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec et Matisse. Gerbier, je dois le reconnaître, n'abusa point de ma générosité. D'autres, à sa place, se fussent cramponnés à moi et m'eussent saigné à blanc, mais lui se montra très digne, et j'eus toujours beaucoup de peine à lui faire accepter quelque argent. si ces lignes lui tombent sous les yeux. Il ne sera peut-être pas très flatté d'avoir eu pour ami un cambrioleur, mais Gerbier a l'esprit large et il comprendra. L'homme n'est rien, c'est le geste qui est tout. D'ailleurs, le cambrioleur qui oblige ses semblables est, à mon avis, plus estimable que le riche qui ne dénoue jamais les cordons de sa bourse. Mon existence à Montmartre était celle d'un petit rentier, et les gens qui me voyaient passer ne se doutaient certes point que j'étais un millionnaire. Il est vrai que rien ne distingue le millionnaire des autres hommes. Un jour que, dans la rue Tolosé, j'avais été surpris par la pluie et me hâtais vers un café tout proche, j'aperçus devant moi une femme simplement mise, mais joliment bien tournée, ma foi. Elle portait une de ces enveloppes en serge noir que les Parisiennes appellent une toilette. Je n'ai jamais pu savoir pourquoi. Et cette toilette, qui devait être pleine d'étoffes ou de lingerie, paraissait fort lourde, car à chaque instant, la femme la faisait passer d'un bras à l'autre. L'eau ruisselait sur la pauvre petite robe de l'ouvrière et dégouttait de son modeste chapeau, dont les bords s'étaient à demi rabattus. Galamment, je m'avançai avec mon parapluie. Un bon Anglais, quand le temps n'est pas sûr, a toujours la précaution de prendre son parapluie et de relever le bas de son pantalon. « Mademoiselle, dis-je d'une petite voix flûtée, voulez-vous me permettre de vous abriter ? Vous êtes bien aimable, monsieur, je vous remercie beaucoup. » Et en disant ces mots, la femme tournait vers moi son visage rose. « Edith, ma chère Edith !»« Edgar, quoi, c'est vous ? Oh, quelle surprise ! Ma petite Edith !» Et prenant sa toilette, je la passai à mon bras. La pluie redoublait, une pluie droite, maussade, qui claquait sur le pavé. On se serait cru à Londres. « Entrons ici, » dis-je en désignant un petit café de la rue des Abbesses, où j'allais quelquefois prendre mon apéritif. Quand nous pénétrâmes dans cet établissement, j'entendis le garçon qui disait à un consommateur « Tiens, v'là l'anglaise de la rue de Mestre qui a fait un levage. Oh, pas mal, la petite poule !» Nous nous assîmes et je commandai deux grogues. Edith et moi, nous étions si émus que nous ne trouvions rien à nous dire. Nous avions l'air aussi bêtes que deux jeunes amoureux à leur premier rendez-vous. Edith me regardait. J'avais pris sa petite main dans les miennes et la caressais doucement. « Vous voyez, dis-je enfin, je suis venu. » « Je le savais bien, Edgar, que vous viendriez. Vous n'êtes pas allé en Amérique ?»« Non. » « Et vous avez bien fait. Vous êtes tranquille maintenant. » « Tranquille. Oui, enfin, vous ne craignez plus. » « Non, je ne crains plus rien, Edith. »« Quel bonheur! Alors nous allons pouvoir vivre heureux. »« En attendant que vous trouviez un emploi, je travaillerai. »« Oh, nous ne manquerons de rien. » Je serrai plus fort la petite main. « Bonne et chère Edith, elle offrait de travailler pour me nourrir. »« Quel dévouement !» C'est à ces choses-là que l'on juge vraiment les femmes. J'aurais pu la rassurer et lui avouer tout de suite que j'avais fait fortune, mais je préférais la laisser causer. Il m'était agréable de l'étudier un peu. La femme que je retrouvais était si différente de l'autre, de celle qui était partie un jour en emportant mes 2000 francs, que je ne la reconnaissais plus. Autrefois, Edith ne rêvait que luxe et toilette. C'était une gentille maîtresse, très aimante à certains moments, mais avant tout préoccupée de son teint, de ses ongles et de ses cheveux. L'Edith de Londres était une poupée de luxe. Celle que je retrouvais était vraiment une femme, et une femme admirable, embellie, purifiée, grâce aux leçons de cette déesse si cruelle que l'on nomme l'adversité. Au lieu de faire commerce de son corps comme tant d'autres malheureuses, elle s'était mise à travailler. Ses jolis petits doigts étaient noirs de piqûres d'aiguilles et sa pâleur, ses yeux rougis par les veilles, disaient le dur labeur auquel elle s'était astreinte. Pauvre Edith. Alors, lui dis-je, vous rentrez chez vous ? Non, répondit-elle. Quand vous m'avez rencontré, j'allais reporter mon ouvrage. Vous avez dû bien souffrir depuis que nous nous sommes vus. Oui, Edgar, les premiers temps ont été durs. Et je vous avoue que j'étais bien près de céder au découragement, mais Dieu m'a protégé. J'ai eu la chance de rencontrer une brave dame qui m'a recommandé un entrepreneur de confection et on m'a donné tout de suite de l'ouvrage. Oh, cela n'a pas marché tout seul les premiers jours. J'avais perdu l'habitude de coudre. Songez donc que je n'avais pas touché une aiguille depuis ma sortie de pension. Je n'allais pas vite au début, mais maintenant je suis devenu assez habile et je gagne bien ma vie. Ah, et qu'est-ce que cela vous rapporte, la couture ? Ça dépend. Il y a des travaux qui sont assez ingrats et d'autres qui sont meilleurs. Quand j'ai des blouses à faire, par exemple, comme celle que je reporte aujourd'hui, je puis me faire 60 francs par semaine. 60 francs par semaine ? Et elle trouvait la malheureuse qu'elle gagnait bien sa vie. « J'espère, reprit-elle, que l'on va avant peu me donner un travail plus soigné, alors ça ira mieux encore. Mais je suis là qui parle de moi, et j'oublie de vous demander ce que vous avez fait, vous, depuis votre séparation, et votre diamant. » « Oh, n'en parlons pas, Edith, il m'a causé trop d'ennuis. » Alors, c'était sérieux, vous aviez un diamant, un vrai ? Oui, un vrai, oui. Mais pour le moment, sachez, my darling, que je suis riche, riche à millions. Edith me regardait un peu inquiète, se demandant si le malheur ne m'avait pas troublé la raison. Oui, riche à millions, repris-je, et l'ouvrage que vous reportez maintenant à votre confectionneur sera le dernier. Bientôt, nous reprendrons la grande vie. Au lieu de végéter dans une chambre garnie, nous aurons notre hôtel à nous, des domestiques, une auto. Vous serez une lady, Edith, car avant peu vous deviendrez ma femme. Vous voulez bien, n'est-ce pas ? Oh, Edgar, mais pouvez-vous le demander ? Mais tout cela est trop beau, j'ai peur. Peur de quoi, Edith ? Je ne sais, c'est ridicule ce que je dis là, mais... « Rassurez-vous, Edith, allons, venez. Nous allons prendre un taxi. Il faut que vous reportiez votre ouvrage. Plus tard, je vous expliquerai tout. » Chapitre 24. Rédemption. La pluie avait cessé. Un joli soleil de printemps dorait la façade des maisons. L'air était doux, une brise molle courait par les rues. Je hailais un taxi et, après y avoir fait monter Edith, jetai au chauffeur l'adresse qu'elle m'avait donnée. « Mais vous êtes toute trempée, remarquai-je. Vous allez prendre froid, il faut rentrer chez vous pour vous changer. » Edith sourit tristement. « Ce serait difficile, dit-elle, car je n'ai qu'une robe, celle que j'ai sur le dos. » Mais ne craignez rien, je suis habitué à la pluie. C'est pas la première fois que je reçois une averse. Je crois que décidément il pleut autant à Paris qu'à Londres. Seulement, je ne sais si c'est une idée, la pluie de Paris me semble plus gaie que celle de Londres. Nous arrivions au bas de la rue Notre-Dame de Lorette et le taxi allait s'engager dans le faubourg Montmartre quand Edith me saisit vivement le bras en disant « Oh non, 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 ne passerons pas par là. »« Et pourquoi ?»« Je vous le dirai tout à l'heure. » Je donnai l'ordre au chauffeur de prendre la rue Bourdaloue et la rue Lafitte. « Figurez-vous, me dit Edith au bout d'un instant, que l'autre jour, dans le faubourg Montmartre, devant un petit bar, j'ai aperçu Bill Sharper.
Oui, Edgar, je l'ai vu comme je vous vois, et je l'ai bien reconnu. Et lui aussi m'a reconnu, car il m'a suivi aussitôt, mais je m'étais approché d'un agent et il n'a pas osé m'aborder. Il demeurait planté au bord du trottoir et attendait le moment où je me remettrais en route. Alors j'ai profité d'un encombrement pour m'esquiver et me suis mis à courir comme une folle. Oh, cet homme! Si j'allais le rencontrer encore!
Tranquillisez-vous, ma petite Edith, vous ne le reverrez jamais plus.
Est-ce possible, puisque je vous le dis?
Bill Sharper est en ce moment entre les mains de la justice.
Oh, si vous pouviez dire vrai, mais c'est certain!
Manzana aussi a été arrêté.
Comment, mais ils étaient donc tous deux à Paris?
Non, non, on les a arrêtés à Londres, dans un établissement de Pennsylvania Street. C'est Alan Dixon qui les a capturés.
Alan Dixon? Ce maudit détective qui avait l'air de tant s'intéresser à nous et qui cependant est cause de tous nos malheurs? Oh, ne me parlez jamais de cet individu-là, Edgar.
Alan Dixon a fait son devoir, Edith. Il y eut un silence. Ma maîtresse me regarda un instant, puis me pressant tendrement la main.
« Ne pensons plus à cela, dit-elle. Ne sommes-nous pas heureux maintenant ?»«
Oui, Edith, nous sommes heureux, et vous avez raison, il faut oublier le passé. Figurons-nous que nous avons fait un mauvais rêve. »
Nous étions devant la maison où ma maîtresse allait reporter ses blouses. « Renvoyez votre taxi, dit-elle, car je vais peut-être en avoir pour un certain temps. Et il m'arrive quelquefois de poser une heure avant de pouvoir remettre mon ouvrage. Ensuite, il faut que je fasse établir mon bon pour passer à la caisse, et ces messieurs ne sont jamais pressés. »
Mais inutile de passer à la caisse, et dites, laissez-leur les quelques francs que vous devez toucher. Nous n'avons plus besoin de cela maintenant.
Non, Edgar, j'ai travaillé, j'entends être payé. Pourquoi laisser mon argent à ces gens-là? Et puis j'y tiens, cet argent. C'est le dernier que j'aurai gagné de mes mains, je veux le conserver. J'ai l'idée qu'il me portera bonheur.
Bon, c'est bien, je vous attends.
« Renvoyez votre taxi. »
Je me contentais de sourire. Est-ce qu'un millionnaire regarde à quelques misérables francs? Edith pénétra dans la maison, s'engagea dans un long couloir, et je suivis un instant sa gracieuse silhouette. Quand je l'eus perdu de vue, je me calai dans la voiture, les pieds sur le strapontin, allumai un cigare et me pris à réfléchir. Tout jusqu'à présent semblait me favoriser. J'étais riche, j'avais retrouvé ma maîtresse, que pouvais-je désirer de plus? Mais une ombre passa subitement sur mon bonheur. Je venais de sentir sous ma main le diamant maudit qui avait bouleversé ma vie. 3 ans et demi s'étaient écoulés depuis la nuit où je l'avais enlevé de sa vitrine. 3 ans et demi. Aucun journal n'avait, comme je l'ai dit, parlé de ce vol qui était pourtant d'importance. L'administration du musée du Louvre avait dû cependant avertir la police. Des agents s'étaient évidemment livrés à une enquête qui n'avait pas abouti, et l'affaire devait être aujourd'hui classée. Néanmoins, on pouvait la rouvrir, cette enquête, d'un moment à l'autre. Et cela pendant 6 ans et demi encore, puisqu'en France, les vols de ce genre, vols avec effraction, se prescrivent par 10 ans. Et si Manzana, au courant de l'interrogatoire qu'on lui ferait subir, allait parler de cette affaire, que dirait-il? Qu'un nommé Edgar Pipe avait dérobé le régent. Mais où trouver Edgar Pipe? Il n'existait plus. Tout cela ne laissait pas de m'inquiéter, bien que je m'efforçasse de trouver des raisons propres à me rassurer. Soudain, une idée me vint à l'esprit, une idée que j'avais eue déjà, mais que j'avais tout d'abord repoussée. Aujourd'hui, elle me paraissait moins saugrenue, et je m'y arrêtais avec complaisance, la triturai, la retournai, la mis au point, en un mot, et quand je l'eus bien envisagée sous toutes ses faces, je partis d'un bruyant éclat de rire, j'avais trouvé. Oui, j'avais trouvé le moyen de me débarrasser de mon diamant d'une façon assez originale. Et l'on verra plus loin que le moyen était simple, très simple même, et devait réussir à la condition toutefois que je n'attendisse point trop longtemps. Restait une autre question qui me semblait assez compliquée. Devais-je avouer à Edith l'origine de ma fortune ? Ma maîtresse était depuis quelque temps devenue si honnête qu'elle pouvait prendre très mal cette révélation. Il valait mieux ne pas la mettre au courant du petit drame du Sigul, drame dans lequel j'avais, somme toute, joué un rôle odieux. Et puis, en avouant, je donnais à Edith une arme contre moi. Une brouille pouvait un jour ou l'autre survenir entre nous à la suite d'une de ces scènes si fréquentes dans les ménages irréguliers, et même dans les autres. Et ma maîtresse alors céderait à un coup de tête, elle pouvait me dénoncer. Elle le regretterait ensuite, cela était certain, mais le coup serait porté. Il ne faut jamais être trop confiant avec les femmes, qui sont des petits êtres charmants, mais impulsifs et auxquels la jalousie fait parfois commettre les pires sottises. Edith, il est vrai, connaissait maintenant la vie et était renseignée sur mon passé, mais il me semblait inutile de lui apprendre cette nouvelle canaillerie. J'en avais déjà bien assez sur la conscience. Réflexion faite, il n'y avait qu'un homme qui pût me tirer de là. C'était ce bon oncle Chaff, le septuagénaire affectueux, sur le sort duquel Edith était si gentiment apitoyée au moment où je devais partir pour la Hollande. Je dirai donc à ma maîtresse qu'après l'avoir quittée à Waterloo Station, je m'étais rendu en Hollande, et le reste était facile à imaginer. Ce n'est pas l'imagination qui me manque, heureusement, et le petit roman que j'échafauderai dissiperait tous les doutes qui pourraient subsister dans l'esprit d'Edith. On peut être un cambrioleur et hériter d'un oncle généreux. S'il n'y avait que les honnêtes gens qui pussent hériter, on verrait certainement moins de millionnaires. Ma conscience était maintenant en repos. Quand j'aurai mis à exécution le projet dont j'ai parlé tout à l'heure et qui devait me débarrasser du régent, je serais à l'abri de tout danger. Je consultai ma montre, il y avait 3/4 d'heure qu'Edith l'avait quitté. Je descendis de taxi et me mis à arpenter nerveusement le trottoir. On la faisait poser, mais elle s'en doutait, la malheureuse. Enfin, elle reparut. Elle était toute rouge et semblait très excitée. « Mais qu'avez-vous donc ? » demandai-je. « Oh, ne m'en parlez pas, Edgar. Ces gens-là ne sont pas seulement des malappris, ce sont... » Elle n'acheva pas. « Voyons, expliquez-vous, qu'est-il arrivé ?»« Oh, rien, fort heureusement, mais c'est écœurant de voir des choses semblables. Non seulement M. Armand nous chicane sur l'ouvrage et nous oblige à refaire sur place certains plis qu'il trouve mal faits, mais encore il prend avec les ouvrières des privautés vraiment trop... Enfin, comment dirais-je ? Oh, je ne trouve pas le mot, Edgar, mais vous me comprenez. Est-ce qu'il aurait essayé ? Oui, bon, mais je l'ai remis à sa place, et comme il assistait, je l'ai giflé. Ah, vous avez bien fait, par exemple. Ce monsieur Armand n'a que ce qu'il mérite. Ah, heureusement que je ne me retrouverai plus en face de lui. Je voyais bien que depuis quelque temps il tournait autour de moi, mais j'avais pas l'air de m'en apercevoir. Enfin, aujourd'hui, il s'est enhardi. Nous étions seuls dans son bureau. Ah, Edgar, que les hommes sont dégoûtants. Pas tous, Edith. Non, non, Edgar, fit Edith en souriant, pas tous. Comment voulez-vous qu'une femme seule et qui a besoin de travailler ne succombe pas un jour ou l'autre ? Tenez justement, le voici, ce goujat. Monsieur Armand sortait en effet de son magasin. C'était un petit homme obèse, au dos rond, au nez en forme de banane et à la figure eczémateuse. En nous apercevant, il hâta le pas en serrant les jambes, comme s'il s'attendait à recevoir un coup de pied quelque part. Je lui décochai deux ou trois épithètes plutôt malsonnantes, qu'il encaissa sans sourciller, puis me tournant vers Edith, « Nous retournons à Montmartre, n'est-ce pas ?»«
Oui, si vous voulez. »
Nous remontâmes en taxi. 20 minutes après, j'étais chez ma maîtresse. Elle habitait rue Girardon, une petite chambre, bien pauvrement meublée, mais d'une propreté merveilleuse. Sur la cheminée, entre deux vases bon marché, s'étalait ma photographie, une pauvre photo toute craquelée qui avait dû voyager beaucoup, elle aussi, et avoir pas mal d'aventures.
« Vous voyez, » fit Edith, « c'est pas très luxueux ici, mais j'aime cette petite chambre. J'y ai souvent pensé à vous, Edgar, et votre portrait m'a plus d'une fois redonné du courage, car c'est surtout depuis que je suis malheureuse que j'ai appris à vous aimer. »
Un long baiser scella cet aveu qui, cette fois, partait du cœur.